Chroniques algériennes. Une émission proposée par Abdelmadjid Chéri pour faire connaître les hommes qui ont fait l'Algérie par leur œuvre, leur lutte, leur souffrance et les événements qui ont donné à l'Algérie sa place dans l'histoire mondiale. Abdelmadjid Chéri vous propose dans cette émission de mieux connaître les hommes qui ont fait l'Algérie, mais également les idées qui ont fait l'Algérie. Ces hommes, quelques-uns d'entre eux, l'Arbi Tbessi, Mohamed El-Kharoubi, Mohamed Abdelkrim El-Mghili, Raïs Hamidou, Ahmed Reda Houhou, Abbas Lagrour, Mohamed Bouzidi et d'autres encore qu'il vous présentera tout au long de cette série Chroniques algériennes.
Comment cela s'est passé pour les Anglais, pour les Français? Comment, à la limite, les antagonismes entre ces différentes puissances coloniales se sont manifestés? Mais d'autres puissances européennes existaient. Comment cela s'est passé pour elles? Comment elles vont manifester, elles aussi, leur volonté?
Ben, il fallait trouver un agencement dans tout ce beau monde, entre tout ce beau monde. C'est d'abord la lutte coloniale entre les puissances coloniales elles-mêmes avait déjà fait l'objet d'un traité, ou plutôt d'une décision du pape. Au XVe siècle, le monde a été coupé par une ligne entre l'Espagne et le Portugal, parce que c'était à ce moment-là les deux puissances qui étaient en lutte à travers tout le monde entier, et surtout en Asie, en Extrême-Orient. Mais le début du 19e siècle, puisque Napoléon s'était mis à dos toute l'Europe, une conférence internationale va se tenir à Vienne en 1814-1815. Cette conférence, en réalité, est le prolongement d'une autre qui s'était produite au XVIIe siècle, et qui est la conférence de Westphalie, les fameux traités de Westphalie. Il y a trois traités. Mais l'essentiel, c'est que, à partir du traité de Westphalie en 1648, les États européens commençaient à faire la part des choses entre le rôle de l'Église, qui doit commencer à s'amoindrir jusqu'à s'effacer, et les raisons qui poussent les États à se faire la guerre. On en arrive à la raison politique et à la raison économique. On en arrive à bannir la guerre totale, c'est-à-dire le fameux discours de la guerre juste et de la guerre injuste. 1814-1815, c'est l'organisation des relations internationales entre les puissances européennes, et surtout amener un accord tacite entre les Européens pour essayer d'éviter au maximum de se faire la guerre en Europe.
Surtout, ça venait après les campagnes napoléoniennes.
L'Europe avait besoin d'une période de paix et d'une période de stabilité pour pouvoir amorcer sa révolution industrielle et donc se développer.
Mais justement, là, lors de cette conférence de Vienne, Talleyrand avait fait une proposition, si je me souviens bien.
Ça... Oui, Talleyrand, c'est le ministre des Affaires étrangères français, qui a servi trois régimes.
Le Boiteux.
Et qui vient à la conférence essayer de minimiser les sanctions qui vont être édictées contre la France. Parce que la conférence de Vienne de 1814, son but principal, c'est de discuter des suites à donner à l'épopée, pour certains, et au désastre napoléonien, donc les sanctions à édicter contre la France. Et Talleyrand a fait cette proposition en disant: vous voulez punir la France pour avoir voulu exporter sa révolution, alors que vous oubliez le danger essentiel qui menace toute l'Europe, c'est cet État qui défie l'Europe depuis 3 siècles, c'est l'État d'Alger. Voilà le véritable ennemi contre lequel nous devons nous liguer. Et effectivement, cette proposition a fait l'objet d'une discussion de coulisses, puisque la conférence ne s'est jamais réunie en plénière, et on s'est entendu pour se réunir une deuxième fois lors d'une conférence spéciale réservée au problème de la Méditerranée et de la présence algérienne dans cette Méditerranée. C'est la conférence d'Aix-la-Chapelle en 1818. Bon, c'est le point de départ réel des convoitises françaises contre l'Algérie. C'est-à-dire le point de départ effectif, puisque toute l'étude avait déjà été faite par Boutin en 1800. Bon. Mais si nous revenons au contexte des grandes puissances en Méditerranée, la conférence de Vienne avait consacré la prépondérance autrichienne. Le chancelier autrichien Metternich était l'homme fort et Vienne était devenue la capitale de l'Europe. Les événements européens après cette conférence et surtout l'esprit révolutionnaire qui continuait à se propager en Europe et qui a conduit aux révolutions de 1830 et 1848, ceci amena 2 pays à réaliser leur unité, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, qui s'appelait la Prusse, qui va constituer le noyau autour duquel tous les petits États, les principautés allemandes vont se réunir et qui vont constituer l'Allemagne. L'Allemagne va réaliser son unité sous Bismarck, le chancelier de fer tel qu'il est connu, et qui va avoir un rôle très important en Europe. Et petit à petit, jusqu'à devenir la première puissance d'Europe. Et la consécration de Bismarck comme chef d'État inflexible et de la Prusse ou de l'Allemagne comme premier État du monde, c'est la guerre de 1870. La guerre de 1870 qui permet à l'Allemagne de s'assurer définitivement et jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'à la Première Guerre mondiale la prépondérance en Europe, et elle va ouvrir des appétits. Les Allemands vont se dire, ben nous sommes les derniers arrivés dans le domaine colonial. Les Français ont déjà un semblant d'empire, puisque l'Algérie était déjà colonisée depuis 40 ans. Les Anglais s'étaient installés un peu partout, surtout en Inde. Dans certains pays du Golfe, l'influence était déjà importante. La pénétration de l'Afrique commençait à se faire par des explorateurs anglais et français, et même italiens. Et les Allemands vont se dire, ben écoutez, quand même, nous sommes le premier pays, nous sommes la première puissance du monde, et pourquoi pas avoir également un empire. Et donc les Allemands vont se lancer dans la course. Seulement se lancer dans la course coloniale, il faut des moyens et il faut également, j'allais dire, une expérience. L'expérience, on va la prendre chez les Français. La colonisation de l'Algérie avait commencé en 1830. jusqu'en 1870, donc cela faisait 40 ans. On a l'expérience d'une guerre de conquête, on a l'expérience d'une colonisation, c'est-à-dire d'une installation de colons, et on a l'expérience d'une activité juridique importante, puisque il fallait réglementer, il fallait organiser la vie de la colonie. L'Afrique, qui restait le dernier enjeu, puisque la Méditerranée, une fois la France installée, donc la maîtrise de la Méditerranée, la maîtrise ottomane et la maîtrise algérienne étaient perdues. Il ne restait plus que les deux puissances, l'Angleterre et la France, pour essayer de côtoyer, de vivre ensemble dans cette Méditerranée. Et donc il fallait s'installer et essayer de s'installer en Afrique. En Afrique, les Européens sont déjà là depuis le 15e siècle. Des comptoirs avaient déjà été ouverts. Des traités avaient été signés entre des compagnies commerciales, des aventuriers, avec les rois africains. Mais la pénétration de l'Afrique a toujours été un problème. Parce que d'abord, l'Afrique n'est pas un continent facile. C'est un continent aux mille facettes, qui a une ceinture qui occupe pratiquement le centre, et qu'on appelle le Soudan, Soudan qui part d'est en ouest, de Dakar jusqu'à Djibouti. Et cela donne l'occasion aux deux puissances installées, deux puissances importantes installées en Afrique, d'essayer d'avoir le plus possible de territoire, donc de population. Et cela va être une véritable course contre la montre entre les Anglais et les Français, qui, les uns voulant réaliser un axe de Dakar à Djibouti, et ce sera tout le Soudan, et les Anglais qui étaient déjà installés dans le sud de l'Afrique,
et au Caire.
Et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et surtout depuis l'ouverture
du canal
de Suez,
qui se trouvait en Égypte.
Qui se trouve en Égypte. Et donc, il leur fallait faire la jonction entre le Caire et le Cap. Reste maintenant le cœur de l'Afrique. Parce que la bande de territoire comprise, et qui est pratiquement le Sahara pris dans son extension totale de désert africain, à partir de Dakar jusqu'à Djibouti, tout ce Soudan-là.
Tout le Sahel, tous les pays du Sahel.
Tous les pays du Sahel et tous les pays du sud de l'Égypte, de la Nubie, jusqu'au Tanganyika. Donc toute cette bande de territoire, les Français veulent se l'accaparer. Ils ont déjà un certain nombre de pays africains et ils veulent continuer. Ils occupent déjà le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, et ils veulent continuer vers Djibouti. Les Anglais ont essayé de créer une ceinture parce que, comme je vous le disais, le cœur de l'Afrique pose problème. Le cœur de l'Afrique, c'est l'actuel Congo démocratique, l'ex-Zaïre. Ce Congo était la propriété privée du roi des Belges. Donc ce n'était pas propriété de l'État. Et à ce titre-là, les puissances européennes, surtout françaises et anglaises, ont essayé tant bien que mal de respecter cette propriété privée. Parce qu'il y a également, entre les puissances coloniales, il y a un code d'honneur, si vous voulez. Bon, il n'est pas toujours respecté, mais enfin, il existe quand même. Donc, les Anglais vont essayer de contourner l'actuel Zaïre en occupant la Rhodésie, le Rwanda, et essayer de faire la jonction avec le Transvaal.
L'Ouganda aussi.
Bon, l'Ouganda un peu plus au nord, plus au nord, nord-ouest. Mais le problème, c'était le Soudan. C'était là le grand problème, parce que les deux lignes doivent nécessairement se rencontrer en un point. Et ce fut l'incident de Fashoda. Bon, nous avons dépassé un peu la conférence de Berlin, parce que c'est là à partir de 1870, donc les Anglais et les Allemands vont entrer dans la course.
Dans la course pour le...
Et comme ils deviennent la première puissance du monde, eh bien, ils demandent aux autres puissances coloniales de venir à Berlin en 1884 pour discuter de la conduite à tenir, pour essayer d'organiser un peu ce chaos qui règne en Afrique, où tout le monde part à la conquête de tout, où il suffit d'un aventurier avec un drapeau et ça y est, c'est une colonie. Donc il fallait absolument mettre un terme à cette...
désorganisation.
À cette désorganisation.
Entre guillemets.
Oui. Et essayer un peu d'élaborer des règles de conduite.
Et en fait, la conférence de Berlin aurait signifié une conférence où quelqu'un serait venu et a été Barkam al-Foda.
Oui, c'est un peu ça.
Un peu ça.
C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'était aussi la sonnette d'alarme de Bismarck pour dire aux autres puissances européennes, attention, la récréation est terminée. Maintenant, il va falloir compter avec nous. Et donc, il faut absolument que nous soyons partie prenante. Donc, il faut nous entendre. Et une anecdote qui ne manquera pas d'intéresser nos auditeurs, sur la manière de conquérir un pays. Bon, on connaît la conquête directe, normale, par expédition, et on connaît également le petit comptoir qu'on installe sur la côte ouest de l'Afrique. Mais les Allemands ont trouvé une autre méthode. C'est la conquête par télégramme. La conférence se réunit et Bismarck, qui ne voulait pas participer à l'ouverture de la conférence, et parce qu'il attendait une bonne nouvelle, il avait envoyé un navire pour essayer d'occuper le sud-ouest africain, c'est-à-dire l'actuelle Namibie. Et il a suffi que le bateau soit en vue de la côte pour que ce bateau envoie un télégramme à Bismarck lui disant: nous sommes en vue du territoire, et Bismarck envoie un télégramme à la conférence en disant: nous occupons effectivement le sud-ouest africain. C'est à ce moment-là que s'est posé le problème de la fameuse discussion juridique sur le terrain, le territoire nul, la conception de terra nullius, qui sera reprise d'ailleurs pour le problème du Sahara occidental, et également le problème de l'occupation effective. Quel était le contenu qu'il fallait donner à cette occupation effective? Est-ce qu'il suffisait d'être sur la côte pour considérer l'arrière-pays comme étant une possession, donc une colonie, ou bien il faut faire la conquête effective du territoire? Et bien, la conférence a décidé qu'il suffisait d'avoir un pied sur la côte pour que l'arrière-pays vous appartienne. Encore heureux qu'à ce moment-là, les autres pays maritimes qui avaient connu leurs heures de gloire n'aient pas utilisé cette méthode parce que énormément de pays seraient actuellement algériens. Bon, donc cette conférence ne s'est pas réunie en réalité pour partager l'Afrique. Mais c'était la conférence au cours de laquelle les puissances européennes se sont entendues sur un certain nombre, ou sur un comportement, d'abord, entre elles, et également sur l'organisation de la pénétration du cœur de l'Afrique. Et surtout, régler le problème de la navigation sur les deux grands fleuves africains, le fleuve Niger et le fleuve Congo. Tout ceci en prélude à... Parce que le problème du Nil ne se posait pas. Le problème du Nil, les Anglais le considéraient comme faisant partie de leur domaine, donc de circulation ou de navigation internationale, il n'y en avait pas.
Mais d'autant plus que les deux pays où on trouvait le Nil, leur séparation...
Les plus importants, oui, c'était
l'Égypte
et le Soudan.
Donc le problème était réglé.
Mais là également, il faudrait quand même peut-être parler d'une aberration juridique. Pour la réalisation de cet axe, le Cap, les Anglais ont eu recours à un stratagème. Ils ont occupé l'Égypte. Donc l'Égypte était sous protectorat. Mais ils ont amené les Égyptiens, puisque le protectorat suppose le respect des structures étatiques
existence
de l'État protégé.
Ouais.
Donc il y a quand même une structure. Il y a un État, mais il est sous protection. Cette protection enlève à l'État protégé au moins deux domaines. Deux domaines de souveraineté, la défense et les affaires étrangères. Or, voici que l'Angleterre convainc l'État égyptien d'aller faire une expédition contre le Soudan pour en faire un condominium.
C'est-à-dire arrive à convaincre l'autorité protégée à intégrer le processus de colonisation.
Et voilà un État protégé qui devient colonialiste par la force des choses, puisqu'il va mener une guerre contre un pays frère, qui est juste au sud de son propre pays, et qui va le faire pour le compte d'une puissance coloniale. Et ceci va faire l'objet de pas mal d'une très grande littérature juridique importante. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque les Égyptiens voulaient, et les Anglais sont les promoteurs de l'idée, voulaient créer un empire anglo-égyptien, et donc ils pouvaient pousser jusqu'à la corne de l'Afrique, avec la Somalie, si ce n'était les activités des autres puissances coloniales, et particulièrement l'Italie et l'Allemagne. Donc cette conférence de Berlin va tout simplement élaborer une sorte de code de conduite des puissances coloniales pour l'occupation de l'Afrique. Donc on respecte la propriété belge du Congo et on laisse en suspens le problème de la jonction des différentes expéditions pour la réalisation des deux grands axes, puisque cette opération ne sera tranché que lors de l'incident de Fashoda en 1898, qui va être justement le prélude à une autre conférence de Berlin de 1898. Et donc l'incident de Fashoda va permettre à la France de se retirer, de ne pas faire sa jonction avec Djibouti, mais permettre à l'Angleterre de faire la sienne. Voilà un peu, je crois, succinctement, bien que nous ayons pris peut-être beaucoup de temps à parler de l'installation ou de la création des fondements premiers de la doctrine ou de l'idéologie coloniale, il reste peut-être à aborder les fondements de l'idéologie coloniale moderne, sur quoi elle a été assise et quels en sont les objectifs.
Al-Majid Chihri, donc, c'est terminé pour ce soir. On vous retrouvera mercredi prochain pour une autre partie consacrée au phénomène de la colonisation. Donc, rendez-vous est pris mercredi prochain sur les ondes de la chaîne 3 de 23h à 23h30. Bonsoir.